Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique en direct jusqu'à 20h30. On espère qu'on va bien pouvoir faire cette émission parce qu'on nous a coupé l'électricité il y a un instant. C'est pas ce qui se passe. Bref, dans un instant, on va parler de toute une série de sujets, notamment liés à la ville de Paris. Dans un an, Paris aura un nouveau maire, ou bien la maire actuelle aura été reconduite. Ce soir, nous allons donc nous intéresser à sa politique et faire un premier bilan de l'action culturelle de la ville de Paris un an avant cette échéance importante pour les Parisiens et les Franciliens. Mais le rayonnement artistique de Paris résonne bien au-delà du périphérique, périphérique d'ailleurs que le candidat indépendant Gaspard Ganzer se propose dans une interview au JDD ce dimanche de faire disparaître entièrement. Bref, le rayonnement artistique de Paris résonne bien au-delà du périphérique. La culture à Paris symbolise l'influence de la France, même si on ne sait pas toujours ce que fait précisément l'État et ce que fait la ville dans cette politique culturelle. Et c'est de cela dont nous allons parler aussi. Pour débattre de ces questions, nous sommes ce soir avec quatre journalistes. Claire Baumeller du Figaro, bonsoir madame.
Bonsoir.
Michel Guérin du journal Le Monde, bonsoir Michel.
Bonsoir.
Emmanuel Paquette de L'Express.
Bonsoir Frédéric.
Et Zoé Sfès donc de France Culture comme chaque dimanche. Bonsoir Zoé.
Bonsoir, ravi de vous retrouver.
Et puis cette semaine ont été inaugurées les 6 fontaines lumineuses créées par les frères Bouroulec, œuvre grandiose sur le rond-point des Champs-Élysées. Nous en parlerons en ouverture de cette émission. Toujours au sommaire de Soft Power à 20h, votre invité innovation, Zoé Sfès et Valérie Julien Grézin.
Valérie Julien Grézin qui est donc philosophe mais qui est aussi la dirigeante du cabinet de conseil ASM Conseil Alliance. C'est un cabinet donc de philosophes qui conseillent les entreprises et elle co-signe avec le philosophe Yves Michaud un livre qui s'intitule « Mutation numérique et responsabilité humaine des dirigeants ». En gros, qu'est-ce que le numérique fait à l'entreprise et au management ? On en parle avec elle.
20h10, le club de la presse numérique. Cédric O, quel accueil et quelle feuille de route pour le nouveau ministre du numérique. Et nous serons pour en débattre avec Emmanuel Paquet de L'Express et Gilles Fontaine de Challenge. Le club de la presse numérique donc à 20h10. Cette émission est réalisée ce soir par Sonia Leglen avec en régie Clément Daté. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power et en podcast chaque semaine sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 20h30 sur France Culture en direct. Les 6 fontaines des frères Bouroulec ont commencé cette semaine leur belle rotation sur le rond-point des Champs-Élysées entre l'eau et la lumière avec leur mât de bronze et comme en équilibre, ces fontaines rappellent un peu les œuvres du sculpteur américain Alexander Calder avec une forme de modernité 2019. Elles font 13 mètres de haut et sont quasiment transparentes grâce à leurs matériaux splendides, d'ailleurs en cristal. Elles sont aussi très fragiles et excessivement chères, ce qui augure mal de leur avenir sur une avenue qui a connu bien des manifestations violentes ces dernières semaines. Techniquement, les œuvres sont, dit-on, une prouesse d'innovation par leur alliage d'aluminium emprunté aux hélices des sous-marins. Et leur composition a pris 3 ans et nécessité 35 entreprises avec pas moins de 5360 pièces à réunir, à assembler, nous dit-on, si on suit le dossier de presse. Dommage, ces fontaines ne produiront de l'eau qu'entre avril et octobre. Elles seront asséchées pendant la période de la fin de l'automne et l'hiver, mais on nous promet qu'elles s'éclaireront la nuit malgré tout, et cela toute la nuit. Esthétiquement, le débat évidemment est ouvert. Je les ai vues ce matin en journée donc. De près, elles sont belles et leur mouvement lent et arrosé, plutôt réussi. De loin, dans le contexte de l'avenue des Champs-Élysées, elles sont sans doute beaucoup plus discutables. Mais n'est-ce pas le propre de l'art que d'être discuté ? Claire Baumeller, pour commencer sur cette question.
Sur les fontaines Bouroulec ?
Sur les fontaines, absolument.
Eh bien, moi, je les aime bien. Ça, c'est effectivement quelque chose de pas tout à fait partagé, parce que c'est très beaux objets. Sont au cœur d'une polémique assez feutrée qui se joue plutôt sur les réseaux sociaux. On dit que il y a des gens qui prennent la métaphore de la douche en disant que c'est métallique, c'est des douches, etc. Moi, je voudrais juste rappeler qu'avant, il n'y avait rien dans ces six bassins.
Bah, il y avait quand même des fontaines. Mais...
Alors, autrefois, il y avait des fontaines dans les années 30.
Il y a eu plusieurs, il y a eu deux générations.
Dans les années 30,
déjà
il y avait des fontaines merveilleuses qui étaient celles faites par Lalique.
Absolument.
Mais évidemment, vous l'avez rappelé, les Champs-Élysées, ce sont les Champs-Élysées. C'est un lieu de passage. Aujourd'hui, il y a 300 000 personnes qui passent par là par jour. Donc, c'est un lieu de passage. Les fontaines Lalique n'ont pas résisté. Après, il y a eu d'autres fontaines un peu plus contemporaines et un peu moins intéressantes. Elles n'ont pas résisté non plus à la Coupe du Monde de 98. Donc, mais on peut imaginer ce que ça, c'était. Je ne m'en souviens pas, mais je n'y étais pas. Je veux dire, je m'en souviens, mais je n'y étais pas.
Vous n'étiez pas né, vous voulez dire?
Oui, bah, tout à fait. et elles n'ont pas résisté. Donc ça faisait 20 ans qu'il n'y avait rien. Des bégonias, les illuminations de Noël qui sont aussi sujets à controverse, hein, les illuminations de Noël. Donc il y a ces objets merveilleux, vous avez oublié de dire, qui tournent.
Elles tournent, oui. C'est en rotation, je vous ai dit.
Ah,
en
tôt,
lente
ouais.
rotation.
Ça tourne au rythme d'un pas. Comme ça, c'est des manèges merveilleux le soir, et effectivement, on les aime ou on les aime pas, et il y a effectivement une polémique parce que c'est toute la question de la préemption de l'espace public dans Paris. C'est-à-dire, c'est une ville qui a une esthétique, qui a une histoire, et on ne peut pas mettre des objets de 13 mètres de haut comme ça impunément.
Michel Guérin, journaliste au Monde, à franc renversé, ouais, l'impression.
Non, mais quand on écoute Claire, c'est intéressant, c'est qu'il faut aller les voir, parce qu'on a l'impression que c'est des choses énormes, comme ça. Et en fait, ce qui est frappant, c'est qu'on ne les voit pas bien, de jour. Hein.
Ça dépend où on se place,
jour.
En fait.
Et en fait, ce qui me, c'est qu'en fait, je crois, ce qui peut perturber des gens, c'est que ça ne ressemble pas à des fontaines.
Ça, c'est sûr.
Et il faut déjà partir de là. Et on a des idées peut-être stupides sur les fontaines, en tout cas à Paris, souvent agrémentées de sculptures monumentales, importantes, etc. Ou puis des jets d'eau qui montent très haut, enfin un côté massif, quoi. Et là, on les voit très très peu. Et le décalage aussi, c'est entre l'aspect très sophistiqué que vous avez donné au début de l'émission, et quand on les voit, on a l'impression d'un truc hyper bricolé à 3,50 francs. Donc c'est ce double contraste qui fait que les gens sont un peu perturbés.
Ça coûte pas 3,50 francs en plus.
C'est vrai que l'eau, les gens disent l'eau descend et ne monte pas, ne jaillit pas.
Mais tout ça a l'air très
compliqué. Un des grands reproches, c'est que l'eau sort des bras comme ça en bronze et effectivement descend. Mais pourquoi pas?
Alors c'est vrai, c'est pour ça que j'ai interrogé un peu des gens autour des fontaines et ils disaient, oula, c'est quoi cette horreur? Mais ils ne parlaient jamais de fontaines.
Ce qui est étrange surtout, c'est que moi je les ai vus ce matin, elles viennent quand même d'être inaugurées cette semaine, donc c'est tout nouveau. Et personne ne les regardait en fait, il n'y avait pas de public autour. Enfin, on avait un peu l'impression qu'elles étaient là comme si c'était vrai depuis longtemps.
C'est ça une insertion réussie finalement.
Oui. En équilibre du néo-caldaire.
On a l'impression que ça a toujours été là.
Alors puisqu'on parle équilibre, parlons équilibre financier, Zoé Sfez.
Oui, d'ailleurs, je serais assez curieuse de si vous l'avez vécu, de savoir ce que les fontaines de Niki de Saint-Phal à Beaubourg ont suscité à l'époque. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense qu'il y a deux questions. Il y a aussi la question tout simplement de l'opportunité d'avoir, de s'être concentré sur ces fontaines-là. Alors il n'y en avait plus, il y en avait eu. C'est ce que rappelle un billet de blog sur Mediapart du journaliste Jean-Marc Adolphe, qui est très critique, qui parle des aspects financiers en fait du financement de ces fontaines, et qui rappelle que dans un article de 2017, la Tribune de l'Art dirigée par Didier Reckner nous rappelait que 60% des fontaines Wallace à Paris ne marchent plus. Donc est-ce que c'était vraiment l'urgence absolue de commander des fontaines pour les Champs-Élysées où finalement les Parisiens se rendent peu? Bon, ça c'est la première question. Puis l'autre polémique, l'autre aspect de la polémique qui est venu assez tard quand même, parce que peu de gens se sont pencher dessus tout de suite, c'est le financement de ces fontaines qui coûtent un peu plus de 6 millions, qui ont coûté un peu plus de 6 millions d'euros. D'ailleurs, c'est 2 millions de plus que le budget de départ prévu et annoncé en 2016. Et en fait, ces fontaines, elles sont financées par quoi? Elles sont financées par le Fonds pour Paris. Le Fonds pour Paris, c'est une structure de droit privé qui a voulu Anne Hidalgo en 2015, en gros pour, disons, fédérer le mécénat pour la ville de Paris, les financements innovants. Jusqu'à ce jour, la ville de Paris le faisait ponctuellement et directement par ses services. Donc, cette structure existe. Elle avait 15 membres, avec 4 représentants de la ville de Paris, dont Jean-Jacques Ayagon, qui est un petit peu l'artisan des grandes lois sur le mécénat en France. Et puis, toute une série de grands groupes industriels, Dassault, la direction générale des Galeries Lafayette, les PDG de la compagnie de Falsbourg, qui sont aussi
Swarovski aussi, qui a contribué par le cristal à ce que ces fontaines existent.
Alors, voilà, ce qui est intéressant, c'est que, tout à fait, vous avez raison, parmi les membres de ce Fonds pour Paris, il y a des mécènes qui sont aujourd'hui les principaux mécènes, d'ailleurs, de cette fondation, ce qui peut poser problème. Swarovski qui a fait un don en nature, et c'est ça probablement ce qui a le plus étonné et le plus fait polémique, depuis 2017, il y a un membre très important qui est le Fonds Souverain pour le Qatar, qui, comme on le sait, est propriétaire de pas mal d'endroits à Paris, l'hôtel d'Evreux, l'hôtel Lambert. Il y avait eu de grands débats à l'époque sur la manière dont d'ailleurs le Fonds du Qatar avait restauré cet hôtel. Mais bref, Fonds pour le Qatar qui a donné 4 millions d'euros, dont probablement une bonne partie a été utilisée pour financer ces fameuses fontaines.
Alors du coup, tout voilà, ça est bien visible puisqu'il y a
tout ça est visible, parce que tout ça est dit.
Voilà, il y a un panneau, enfin une espèce de plot, comment pourrait-on dire ?
Une plaque,
dans chacun des petits parcs autour des 6 fontaines qui rappellent ces financements.
Voilà, et donc du coup, ça c'est déjà une première question. Est-ce que finalement, c'est pas une manière de vendre la fameuse, d'ailleurs, on a surpris 2-3 mécènes dans des interviews de parler de marque Champs-Élysées et que c'était important pour eux d'avoir leur nom à poser sur la marque Champs-Élysées. Donc ça pose une première question parce qu'on est quand même dans la ville de Paris, une structure publique. Et puis, on le sait, les mécènes en général ont des ristournes fiscales quand ils donnent pour la culture. En l'occurrence, le fonds pour le Qatar n'est probablement pas, le fonds souverain du Qatar n'est pas imposable en France, et c'est ce que révèle un peu cet article dans Mediapart. Quelle est donc la contrepartie qu'on va offrir à ce fonds souverain pour le Qatar? Eh bien, et d'ailleurs, la mairie de Paris le dit, le prévoit, ce journaliste a pu consulter ces documents, et bien finalement, c'est de jouir pour le Fonds souverain du Qatar, de certains monuments parisiens, comme l'hôtel de ville, comme l'orangerie du parc de Bagatelle, comme l'hôtel de Lauzin, pour des réceptions, des banquets, etc. Et là, ça pose aussi des questions de fond, c'est-à-dire que ce fonds pour Paris, c'est quand même une structure privée, et elle va finir par donner le droit à des mécènes de jouir de lieux publics, pour le coup, qui sont financés par les Parisiens. Donc, il y a aussi un problème tout simplement juridique, peut-être éthique, au sens le plus large du terme. Est-ce qu'on a besoin de ces fontaines? Est-ce qu'on a besoin qu'elles soient financées par un fonds qatari? Est-ce qu'on a besoin finalement d'offrir aussi notre patrimoine public pour que ces petites fontaines, si jolies soient-elles, existent? Voilà, ça pose plusieurs questions.
Sur ces questions, Emmanuel Paquette.
Puisqu'on en est à des considérations purement pécuniaires, là, pour le coup, et de savoir d'où vient l'argent.
Dans une émission qui parle d'art
culture,
sur
exactement.
France Culture,
oui,
merci.
Donc,
émission aussi.
Il faut savoir quand même que la dette de la ville de Paris est passée de 1 milliard en 2001 à 5,7 milliards en 2018.
Donc il n'y a plus d'argent encore. Voilà.
C'est-à-dire que, alors, c'est assumé par la ville de Paris hein, aujourd'hui, et tout ça n'est pas lié directement à la culture.
Vous imaginez la polémique si on avait dit que
c'est lié essentiellement au logement social. C'est la politique du logement social de la ville de Paris qui lui coûte
Parisiens.
Le plus.
Si ça avait coûté 6 millions, ça aurait été un scandale inouï.
Donc là, c'est
Parisiens.
Oui, mais c'est toujours la question du mécénat. Alors, on peut revenir.
Les mécènes, c'est des gens privés.
Oui, mais en fait, c'est ça, c'est toujours la question théorique du mécénat. C'est-à-dire, le mécénat, ça permet effectivement d'avoir des fonds qu'on n'a pas, en l'occurrence la ville de Paris, parce qu'elle a une politique très ambitieuse de logement social. N'a plus vraiment d'argent pour la culture, ça c'est une question. Mais en même temps, le mécénat influe sur ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'évidemment, que le Fonds souverain pour le Qatar, il va peut-être pas financer une exposition de jeunes artistes dans le 20e, il va évidemment préférer et restaurer
les Champs-Élysées,
pudiquement les fontaines. Voilà, il va briller
Emmanuel
sur les
Champs-Élysées.
Oui, c'est d'ailleurs la deuxième critique qui est fondée vraisemblablement sur cette création, c'est de dire que les Parisiens n'y ont pas été associés, puisqu'on est né à l'heure du RIC, notamment avec les Gilets jaunes, qui défilent souvent sur les Champs-Élysées, hein, donc qui auront plaisir, je suppose, à voir cette nouvelle création. Mais
et à faire remonter l'eau.
Il se trouve que la mairie de Paris,
cristal
exactement,
à son état gazeux.
À aucun moment, la mairie de Paris n'a demandé son avis aux Parisiens. Et donc, les Parisiens ont découvert, à la fin, cette structure. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer aussi que c'est vraisemblablement le financement, qui est du financement privé de mécènes, qui fait qu'ils ont eu, eux, un droit de regard, alors que les Parisiens ne l'ont pas.
Mais est-ce qu'on n'est pas toujours un peu scrogneux, hein, toujours critiqué les financements, et c'est pas beau, etc. Bon, finalement, il y a quand même des fontaines,
non,
il y en a six,
ouais,
Michel Guérin.
Mais par rapport à ce que vous dites, Paris est la ville la plus rétive, je pense, au changement. On le voit dès qu'il y a un bâtiment qui veut s'ouvrir, dès qu'un architecte un peu intéressant qui arrive à Paris pour faire quelque chose, par exemple rue de Rivoli avec Sana qui va rénover je sais plus quel grand magasin
rue de Rivoli. La Samaritaine.
Vous avez tout de suite des associations locales de quartiers, etc. C'est repoussé de plusieurs années, ça coûte trois fois plus cher, enfin c'est quand même très difficile. Et puis c'est aussi tout le problème d'une ville hyper dense, hyper contrainte par le périphérique, quel que soit le Grand Paris qui va arriver, ou alors il faudrait démolir le périphérique, et qui fait qu'en fait, c'est très très difficile de faire des choses dans cette ville.
Claire Baumeler, pour défendre les fontaines.
Oui, sur les mécènes.
Pourquoi on n'a pas fait des fontaines, par exemple, dansantes? Vous savez ce qu'on appelle les dancing fontaines qui existent dans tous les supermarchés du monde. Au moins, ça permet aux...
Qu'est-ce que c'est que ça?
Vous savez, c'est des fontaines qui montent, elles ne font pas descendre. Et elles montent, elles descendent, elles se mettent à danser en lumière la nuit, etc. Les enfants adorent et généralement, il y a des foules de gens autour de ces fontaines, ce qu'on appelle les dancing fontaines.
Mais c'est les Champs-Élysées, On ne l'oublie pas, c'est quand même un rond-point extrêmement prestigieux. C'est une avenue qui a 350 ans. Qui a été au cœur de l'histoire à de nombreuses reprises. On peut pas mettre, j'allais dire n'importe quoi. Je ne sais pas si votre proposition de fontaine dansante, c'est n'importe quoi. Mais il y a tout de même quelque chose à tenir, je dirais, dans cette avenue.
Et vous trouvez que ça tient?
Moi, je trouve que ça tient. Même si on n'aime pas, on ne peut pas dire que c'est complètement discordant. D'ailleurs, la commission des sites, qui est la gardienne du temple du patrimoine parisien, et qui donne son avis pour savoir si tel objet nouveau et contemporain est discordant avec le reste, a donné son accord.
Mot sur d'autres.
Après, les goûts et les couleurs.
Voilà, juste une dernière chose quand même. Ok, ça a un peu fait du bruit sur les réseaux sociaux, mais enfin, on ne peut pas dire que ça soit le scandale du siècle. Ouais. Hein. Je pense que
le Jeff Koons avait fait beaucoup plus parler de lui.
Dix fois plus de bruit.
Alors, un mot sur ça, justement, sur le Jeff Koons, Claire Baumeler.
Alors, Jeff Koons, ça...
C'est aussi une actualité, puisqu'il y a quelques semaines, on a su où enfin ce bouquet de fleurs allait pouvoir s'épanouir.
Voilà, le bouquet de tulipes de Jeff Koons, lui, il fait 12 mètres. Alors, il est un peu moins grand que les fontaines, mais il pèse 33 tonnes. Il a des couleurs acidulées, il a une main assez réaliste qui tient une dizaine de tulipes aussi très colorées. Donc, c'est l'ambassade américaine qui en a fait don à la ville de Paris, hein, pas à la France, à la ville de Paris, dans la foulée des attentats. Donc c'était un cadeau diplomatique.
On a dit empoisonné.
On a dit empoisonné parce qu'une fois que ça a été accepté, tout de suite s'est posé la question de où est-ce qu'on met ça. Parce que Michel Guérin vient de le dire, Paris ne se prend pas comme ça et surtout pas avec un objet aussi extravagant que ce bouquet de tulipes. Et il y a eu plusieurs lieux qui ont été mis à l'étude. Il y en avait 7. Et l'ambassade, et moins l'ambassade que la galerie qui représentait les intérêts de Jeff Koons à Paris, ont dit, eh bien ça serait formidable, place du Trocadéro. Et alors là, oui, là il y a eu une polémique, là tout s'est agrégé. Tous les termes de la polémique, non seulement la préemption de l'espace public, c'est-à-dire qui a le droit d'exister à Paris, mais aussi qu'est-ce que c'était que cet Américain qui a finalement un des plus connus dans le monde, donc ce riche artiste
qui fait un cadeau comme ça
et qui finalement représente des intérêts impérialistes. On a entendu des choses absolument incroyables. Et puis il y avait tout simplement, est-ce que ce bouquet de tulipes dénaturait ou pas le site du Trocadéro. Donc on a fini par juger...
Et du Palais de Tokyo, après, il y a eu aussi le débat sur le Palais de Tokyo, en fait.
Oui,
à côté du Palais de Tokyo.
Il y a eu quand même deux autres problèmes. Bon, il y a toujours le problème de la ville, enfin des Parisiens qui n'aiment pas trop ça, mais est venu s'ajouter un autre problème, c'est que tout le monde de l'art en France est des contre.
C'est-à-dire parce que c'était l'artiste américain. Hein.
Oui, non, c'est pas parce qu'il est américain, c'est parce que c'est Jeff Koons. Oui. Jeff Koons, c'est un artiste détesté
mais par aussi
le
parmi
monde
les...
de l'art
mais parmi
en France,
les plus
parce que...
vendus au monde et les
oui,
plus chers
voilà,
au monde.
Voilà, il pense que c'est vraiment, ça fait partie de ces stars, machin. Tout le monde a eu l'impression dans cette affaire que c'était plus une autopromotion de Jeff Koons qu'un cadeau. C'est plus qu'un cadeau empoisonné, c'est vénéneux à un point incroyable. C'est-à-dire que plus personne ne sait quoi en faire, ça va être dans cet endroit. Moi, je ne voudrais pas inciter les gens, mais enfin, je ne lui donne pas beaucoup de temps avant qu'il y ait des problèmes sur cette sculpture.
Parce que où est-ce qu'elle va être mise, finalement, Claire?
Finalement, après avoir tourné dans tout Paris, y compris à la Villette, on avait pensé que c'était bien à la Villette, mais là, l'architecte de la Villette a dit non, ça va dénaturer les petites fabriques de la Villette. Et Jeff Koons lui-même disait, mais c'est un peu excentré, parce que là aussi, il y a une question de mécène, parce qu'il y avait des mécènes américains, c'était pour les attentats.
C'est un courtier de Wall Street qui a offert, parce qu'il faut qu'on arrête de dire que c'est Jeff Koons qui l'offre, c'est un courtier de Wall Street qui paye les 3 millions d'euros pour que Jeff Koons la fasse. Alors Jeff Koons est très content que
elle est déjà
à Paris,
faite.
Mais
elle
est déjà
faite.
Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas offerte par l'artiste lui-même. Elle est offerte par des mécènes new-yorkaise
alors,
de jazz.
Elle va atterrir où, Claire?
Elle atterrit
Donnez-nous
où
enfin
elle atterrit
la solution.
Derrière le Petit Palais. Mm-hmm. Là, c'est pas très loin des fontaines Bourlec. Hein. Ça va faire tout un ensemble
elles
controversé.
Vont se regarder
ça va faire un
et se mettre à tourner ensemble.
Oui. Mais c'est derrière le Petit Palais, c'est d'ailleurs c'est le patron du Petit Palais qui a proposé ça, parce que derrière il y a un jardin. Je mets au défi les Parisiens de savoir où est ce jardin, personne n'y va jamais.
Oui, il y a très peu de passages.
Il y a très peu de passages.
Ou alors pour aller dans un grand restaurant.
Bah, l'avantage c'est que tout le monde va aller voir la fameuse,
bah
le fameux
oui,
bouquet
fait,
de tulipes.
Si, ça fait partie
Jeff
quand
Koons.
Même peut-être de la reconquête de cette partie basse des Champs-Élysées qui est entre la Concorde et...
Un mot sur le cœur, puisqu'on est sur ces œuvres qui font polémique, le cœur de Joana Vasconcelos. Là, on est sur la ligne tramway T3, on est à hauteur de la porte de Clignancourt. Cette nouvelle ligne qui relie non seulement le pont de Garigliano, porte d'Ivry qui s'est étendue jusqu'à la porte d'Asnières depuis maintenant quelques années, avec une trentaine d'œuvres d'art, dont ce cœur magnifique rouge au milieu de la porte de Clignancourt. Une réaction?
Alors c'est magnifique celui-là.
Vous le trouvez magnifique ? C'est mon point de vue. Oui, je trouve qu'il le cœur bat vraiment.
Alors lui, il fait beaucoup moins de débat sur son esthétique et sur son allure que sur son prix.
Il faut dire que tout ce qu'il y a autour est très laid, donc finalement,
il y a un petit débat sur son opportunité. C'est bien de le mettre là, mais pourquoi? Pourquoi pas? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas? C'est vrai que l'idée, c'est que le long du tramway, il faudrait qu'il y ait des œuvres d'art, parce qu'on, bon, ça fait partie d'une des politiques de la mairie.
Combien ça a coûté, Claire?
Ça a coûté 650 000 euros.
Ouais. À la ville?
À la ville. Alors là, l'opposition s'en est émue. Cette fois-ci, c'est pas tellement les riverains que l'opposition. Et là, on tourne en rond même dans nos conversations, c'est-à-dire que on dit 6,5 millions de mécénat. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est l'intention? Et quand on voit 650 000 euros, bien, l'opposition dit, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire avec cet argent-là?
Pour l'argent des Parisiens.
Mais c'est intéressant que ça vienne de l'opposition et pas des citoyens, en fait.
Michel Guérin.
Moi je ne remets pas en cause l'œuvre à l'escalier, mais là, pour moi, il y a un vrai problème de contextualisation. C'est-à-dire que aller dans ce quartier, et c'est terrible, c'est un quartier terrible.
Oui, entre le périphérique,
les migrants à côté, des problèmes
des
de
maréchaux.
Drogue, des problèmes de salubrité publique qu'il y a là, etc.
Il fallait pas mettre d'art là, alors.
Non, c'est pas le problème, c'est un sparadrap. C'est-à-dire que là, ça devient même un côté bisounours, sympa, regardez ce cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment donner dire que l'art va résoudre tous les problèmes. C'est pas vrai. Je crois qu'il y a l'initiative de cette œuvre. Il y a la Fondation de France et le fameux programme des nouveaux commanditaires, qui est un programme exceptionnel, c'est-à-dire de faire des œuvres d'art avec la population. Mais je crois qu'à la fin, très peu de gens se sont investis dans ce projet. Et donc, voilà, on n'en retient que quoi? Qu'une œuvre faite par la ville de Paris qui met 600 000 euros dans un endroit où il y a 1000 autres problèmes à régler avant.
Et puis on termine dans cette actualité au fond de l'art dans l'espace public avec Christo qui va emballer enfin, je dirais, l'Arc de Triomphe. Ça aura lieu du 6 au 19 avril 2020, donc dans une année. Ça vient d'être annoncé cette semaine notamment pour le Centre Pompidou. Christo qui a 83 ans, c'est un vieux projet de 1962. Il voulait emballer l'Arc de Triomphe, il a déjà emballé le Pont Neuf en 85, le Reichstag en 95. Ces très belles portes, les gates à Central Park en 2005, c'était orange. Je crois, si je me souviens bien, de Central Park, et puis les passerelles flottantes sur le lac d'Iseo en Italie en 2016. Le projet coûtera 12 millions d'euros. Là, il est entièrement financé par lui, puisque après, il vend des photos, des cartes postales, des t-shirts et tout ça. Christo, donc, ça sera du 6 au 19 avril 2020. Très brièvement, une réaction, l'un de vous deux?
Très intéressé, je trouve ça très bien. Je pense que l'Arc de Triomphe va vibrer. Je crois que ça, le problème de l'Arc de Triomphe, c'est qu'il est hyper figé. Et là, je pense qu'il va vibrer, il va bouger par le système de l'emballement. Maintenant, on va voir, ça va diviser, etc. Mais c'est intéressant.
De toute façon, ça sera temporaire. Ça durera une semaine, donc on pourra retrouver, a priori, l'Arc de Triomphe en état après cette période. Dimanche dernier, on a découvert en avant-première le nouvel album de PNL. Et ce premier morceau, ODD, c'était la vidéo qui compte déjà plus de 43 millions de vues. Un record en si peu de temps pour un groupe de rap français. Et donc, avant de continuer cette émission sur la politique culturelle de la ville de Paris, un morceau de musique. C'est ce vendredi que l'album complet baptisé Deux Frères est sorti comme prévu. Et pour l'occasion, pour fêter l'événement, on peut dire PNL s'est offert écoutez bien, les Champs-Élysées, qu'ils ont remonté avec leurs fans à bord d'un bus à Impérial. C'était donc vendredi, champion du monde, a tweeté le groupe en référence à la Coupe du Monde, pour résumer cet événement surprise vendredi soir à Paris.
Wow, 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 wow. Ouais, c'est le désert dans la tête. Je remplace centime par sentiment. Mon cœur se transforme en billet. Wow, 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 wow. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos crasses, pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain de race. Wow, 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 wow. Voilà, voilà, voilà. Que j'aimerais leur tendre la main, mais ces sauvages me la couperaient, mettraient ça sur le dos de la faim. Wow, 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 wow. Une vision de paranoïa. Le corbeau remplace le chant du coq. Un je t'aime coupé à l'ammoniaque, où je finis comme Manu le coq. Wow, wow, wow. Yeah, je crois que personne ne vit sans regret. Nous on est tout le contraire de Piaf. Cerveau à chaud, cœur baisse les degrés. Wow, 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 wow. À la vie, à la muerte. Le temps passera plus vite qu'hier. Le soleil se couchera dans la vallée. La lune sortira une bière. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Je t'aime. Wow, 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 wow. À la folie. Wow, 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 wow. Passionnément. Wow, 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 wow. À l'ammoniaque. Wow, 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 wow. Je t'aime. Wow, 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 wow. À la folie. Wow, 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 wow. Passionnément.
France Culture, 19h, passé de 27 minutes. Ce soir, nous parlons de la politique culturelle de la ville de Paris. Nous sommes avec Claire Baumeller du Figaro, Michel Guérin du Monde, Emmanuel Paquet de l'Express et Zoé Fès de France Culture. Quand on interroge les Parisiens sur la politique culturelle de la ville de Paris, et tout ça évidemment en pensant aux élections qui auront lieu en mars prochain, c'est-à-dire dans une année, ils sont 85% à se dire satisfaits de l'offre culturelle à Paris. Michel Guérin, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces 85% finalement heureux, au moins sur l'aspect culturel, de vivre à Paris?
Une énorme ambiguïté. C'est vrai que c'est génial. Je pense qu'il n'y a pas une ville au monde où l'offre culturelle est la plus forte, la plus dense, la plus diversifiée, du lieu énorme jusqu'à l'association de quartier, café, danse, tout ce que vous voulez. Et en fait, quand on dirige la culture à la ville de Paris, qu'on s'occupe de ça, on a une chance énorme. La chance énorme, c'est quoi? C'est
même que, si on fait rien, il se passe des choses.
Bien sûr, on peut se permettre même de fermer 4 établissements importants. Les 2 principaux théâtres qui sont sur la place du Châtelet,
Théâtre de la
on
Ville.
Peut fermer le Carnavalet, on peut fermer le musée Galliera, etc. Il y en a d'autres. Et je ne veux pas dire que personne ne s'en rend compte, mais parce que ce sont des lieux fortement estimables. Mais il y a tellement de choses à Paris qui ne sont pas du ressort de la ville. Il faut savoir une chose quand même très vite. L'État dépense 3 milliards d'euros pour la culture chaque année. Ils doivent en dépenser un petit tiers juste à Paris et en début d'Île-de-France, alors que le budget de la culture de la ville de Paris, c'est 178 millions.
À Toulouse,
c'est 144 millions. À Marseille, 127 millions. Bon, vous voyez un peu une idée. Et je pense que 90% des Parisiens, et même ici autour du micro, si on devait savoir exactement ce qui est fait par l'État et ce qui est fait par la ville au niveau culture, rien qu'au niveau établissement, de qui ça dépend, je crois que personne ne serait capable de vraiment répondre. Donc c'est une des chances énormes et ça induit beaucoup de choses. C'est vrai que quand vous avez la Bibliothèque nationale de France, le Louvre, le musée d'Orsay, le centre Pompidou, le Grand Palais, tout ça c'est l'État. Après, vous pouvez ensuite faire des choses à côté, quoi. Mais donc, ça veut dire qu'une ville comme Paris, quand elle définit une politique culturelle, elle doit tenir compte de ça. Elle en tient compte plus ou moins bien. Elle a essayé et pas lutté. On ne lutte pas face à ça. On en profite. Mmh. Et donc, j'imagine, et on verra, on en parlera, mais entre la politique qu'avait faite Bertrand Delanoë et maintenant Madame Hidalgo, il y a des grosses différences. Mais je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une ville très endettée. Et donc, l'ère des grandes folies culturelles de la ville de Paris, s'il y en a eu, et encore, je pense qu'il n'y en a pas eu vraiment, mais enfin quand même, maintenant, c'est plutôt on gère et on essaye, on fait un peu de couture, on fait un peu des petites choses derrière, mais on peut pas dire qu'il y ait des énormes choses, quoi.
Claire Baumeller, quand on prend le bilan de Bertrand Delanoë, au départ, c'était essentiellement deux axes, la création et les nouveaux équipements. Les nouveaux équipements, il a créé le 104, la Maison des Métallos, le Luxor, ce cinéma à Barbès, les Trois Baudets, la Gaîté Lyrique et bien sûr la Philharmonie, qui d'ailleurs, je crois,
enfin, la Philharmonie,
à 50%, oui. Ville à 50%.
Mais maintenant,
État,
quand on regarde qui finance, c'est quand même du 80-20, voire
augmenté,
du 90-10.
Ouais. D'ailleurs, Anne Hidalgo était plutôt réservée, je crois, à l'époque, sur la Philharmonie. Depuis le 5 avril 2014, c'est elle qui est maire de Paris. Comment vous jugez sa politique ?
Mon confrère a tout dit, c'est-à-dire que l'ère des grands projets est derrière. Donc maintenant, derrière elle.
Derrière elle.
Derrière elle. L'endettement, là aussi mon confrère l'a dit, est considérable. Donc que faire ? Il faut miser sur ce qu'elle appelle la démocratisation culturelle, la diffusion des savoirs à l'école, les bibliothèques, des choses comme ça. Et puis ensuite, elle essaie de rattraper les deux dossiers qui ont été un peu en retard, qui sont la rénovation des musées et la rénovation des églises. Donc voilà.
Et puis une politique sur les conservatoires, on y reviendra aussi un petit peu active sur les arts numériques et je dirais un peu les bibliothèques.
Mais ce qui est sûr, c'est que
c'est du fond, ça.
C'est vrai que si la culture et les arts c'est dans l'ADN de Paris, ça peut pas être vraiment sa priorité parce que comme disait mon confrère, c'est déjà un terrain très occupé par ailleurs. Donc, elle va dans de multiples directions. Parfois, c'est du sparadrap, comme on l'a dit. Parfois, c'est un peu plus lourd, comme la rénovation des musées. Mais c'est très difficile d'imprimer sa marque. Et elle a beaucoup de mal pour ça.
Michel Guérin.
Et puis, je pense aussi, excuse-moi, c'est quelqu'un, je pense, Delanoë, et vous voulez du flamboyant quand même. Il voulait des lieux. Il a créé des lieux, vous avez donné quand même un nombre de lieux assez important, hein, mine de rien. Il y a une dizaine de lieux qui ont été mis en place avec des succès très divers. Il faut savoir quand même que le 104 a été un fiasco au début et très bien redressé aujourd'hui. La Gaîté Lyrique ne marche pas. Je pense que c'est un problème, mais c'est aussi un énorme problème architectural. C'est-à-dire que c'est un lieu difficile, c'est un grand couloir, petit. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est pas simple.
Puis ils ont eu des gros problèmes avec leur direction. Ils ont eu des directeurs qui ont démissionné.
Assez d'argent pour leur promotion.
Voilà. Monsieur Delanoë a aussi rénové le Théâtre Montfort, Paris Villette. Enfin, il y a eu plein de choses. Mmh. Elle, je pense que d'abord, elle se méfie de la culture institutionnelle. Je pense pas que les grands lieux. Mmh. Vous l'avez dit, mais la Philharmonie, elle n'en voulait pas. Je veux dire, c'est pour eux. Alors, de la musique classique, et en plus pour les riches, enfin, un truc pour l'élite, c'est pas son truc du tout. Je pense que la culture n'est pas vraiment son domaine d'admiration, de passion. Je pense qu'elle est énormément obsédée maintenant par la culture de proximité, par la culture, justement, l'accès à la culture de tout le monde. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est qu'elle a une autre chance énorme. C'est que la population parisienne est hyper privilégiée. Elle n'a pas, comme toutes ces grandes villes de France, des quartiers difficiles, terribles, qui contrastent, avec des contrastes énormes entre le centre-ville de Bordeaux, de Toulouse, de Nice, etc. Et puis à la périphérie.
Il y a
une forme d'homogénéité.
Alors évidemment,
les gens viennent de banlieue dans Paris. Enfin, pas tant que ça pour se cultiver. Donc en fait, l'offre culturelle parisienne, elle est pour les Parisiens, elle n'a pas ces grandes difficultés non plus.
Alors c'est quoi la politique culturelle et c'est qui sont les hommes et les femmes avec lesquels elle travaille ? Il y a bien sûr des adjoints, je pense à Bruno Julliard qui a été son adjoint de 2012 à 2018, qui a au fond lancé sa politique et démissionné très bruyamment. Il va lancer d'ailleurs dans quelques temps une fondation culturelle lui-même, remplacé par Christophe Girard, l'ancien adjoint de Bertrand Delanoë, revenu adjoint à la culture. Il y a d'autres d'autres adjoints qui jouent un rôle. Je pense à Jean-Louis Missika sur une partie d'urbanisme et donc les projets du Grand Paris et notamment l'espace public. L'adjoint Christophe Najdowski qui est un adjoint vert pour la question de l'espace public encore. Il y a une adjointe au patrimoine, notamment sur les églises. Il y a quelqu'un qui est chargé de la nuit, de la diversité de l'économie culturelle, Frédéric Ocard, ou encore des gens qui sont plus spécialisés sur les questions notamment budgétaires. Emmanuel Grégoire, premier adjoint. Que pensez-vous de cette équipe et notamment du départ de Bruno Julliard?
Michel Guérin. Il ne faut pas oublier que Bruno Julliard, il était premier adjoint.
Il était les deux, il était premier adjoint et adjoint à la culture.
C'est rare qu'être à la fois premier adjoint et adjoint à la culture, c'est une chance, on pourrait dire, pour la culture. Le problème de Bruno Julliard, c'est qu'il n'est pas parti pour des questions culturelles. Hein. Ouais. Si on regarde les entretiens qu'il a donnés, notamment au Monde, pour expliquer son départ, manifestement, il y avait un problème
de caractère, personnalité.
Il avait l'impression qu'elle lui coupait l'herbe sous le pied. Sur quelques décisions, elle prenait les décisions sans qu'il soit au courant. Enfin bon, c'était plutôt de ce niveau-là.
Mais notamment sur des décisions culturelles. Il y a un désaccord sur Emmanuel de Marsimota, directeur du Tête de la Ville.
Oui, enfin, les problèmes sur les vélos libres à Paris, etc., c'était plus lourd que je crois que le problème de M. de Marsimota, que personne ne connaît à Paris, à part les gens passionnés qui vont
du théâtre de la ville.
Théâtre, ouais. Et en plus dans un lieu magnifique. Moi, je trouve qu'un des rares lieux, le théâtre de la ville, où l'identité danse et un peu musique, mais déjà danse, c'est historique, rivalise très fortement avec l'offre d'État.
Quand ce sera réouvert, puisque ce n'est pas avant 2021 maintenant. Apparemment, c'est très retardé.
2021. Alors lui aussi, il a essayé, je pense, de faire beaucoup plus de l'événement que de la construction. Il a dit c'était de toute façon il y a plus à faire cela, et le problème c'est que il n'avait pas assez d'argent pour le faire. Moi j'ai eu la chance d'assister, je sais pas pourquoi il m'avait invité à venir, il recevait tous les acteurs culturels de la ville de Paris.
Peut-être parce que vous êtes journaliste au Monde.
Oui, peut-être dans les petits lieux. J'ai rien écrit à l'époque. Il faut savoir quand même que la ville de Paris soutient une centaine de lieux de manifestations culturelles, c'est énorme. Donc il y a des choses qui sont à plusieurs millions d'euros et des choses à 4 5 7 000 euros. 2000 euros, voilà. Et il y avait dans la salle 200 acteurs culturels qui dirigeaient des associations théâtrales, des associations sur la musique, tout ce que vous voulez. Mais c'était 2 heures de plainte. C'était vous baissez vos budgets, j'ai moins de soutien, etc. Mais vous entendez la même chose si vous allez à une réunion de l'État face à ces grands lieux culturels ou si vous allez à Toulouse, à Rennes ou ailleurs. Donc ils sont dans une spirale difficile de déficit, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut réduire et imaginer plus que dépenser. Et voilà. Et donc, ils s'en sont à gérer la crise. Et c'est la difficulté de Madame Hidalgo pour la culture, je pense, c'est qu'elle doit jouer, la seule chose qu'elle jouait, c'est la proximité, c'est ne pas être contre ces grands établissements, mais jouer à côté les petites choses, les petits formats, les manifestations. Et elle manque un peu d'argent, manifestement, pour y arriver.
Un mot, Claire Baumeller, sur les théâtres et les musées. On a évoqué un peu le théâtre de la ville avec le renouvellement d'Emmanuel de Marsimota, qui dirige aussi le Festival d'automne. D'ailleurs, est-ce que cette double casquette n'est pas problématique, un peu répétitive et fait perdre aux deux lieux, et notamment au Festival d'automne, qui concerne plusieurs théâtres, son identité. Et puis les musées, avec là tout un tas de rénovations. 14 musées sur les 50 parisiens appartiennent à la ville.
Oui, c'était nécessaire de les rénover parce que ça n'a pas été une priorité de Bertrand Delanoë. Finalement, quand on y songe, ça fait 2001-2020, ça fera quand même 18 ans de la, presque la même équipe au pouvoir.
Socialiste, oui.
Socialiste, donc ça, on finit par avoir des tranches qui doivent se faire non pas sur les 6 ans d'Hidalgo, mais bien prendre en compte toute la tranche depuis son prédécesseur. Donc il ne s'était pas tellement intéressé au musée. Et là, il y en a presque une dizaine qui sont en rénovation. Elle revient justement de la maison de Victor Hugo qui est à Guernesey, qui avait été donnée à la ville de Paris.
Qui a été réouverte vendredi.
Qui a été réouverte vendredi, entièrement restaurée. Ça aussi, on ne soupçonne pas.
Alors là, on est hors de Paris, mais ça appartient à la ville de Paris.
On ne soupçonne pas que la ville de Paris puisse avoir la maison de Victor Hugo, mais elle a
rénovée
aussi celle.
Elle a aussi celle de la place des Vosges, c'est ça?
Elle a aussi celle de la place des Vosges.
Rénovée par un mécénat Pinault, hein, pour ce qui est
alors,
de...
Alors cette fois-ci, c'est mécénat Pinault.
De Guernesey.
Là, peut-être, on ne connaît pas la contrepartie, puisque ça vous intéressait, mais c'est sans doute lié aux bonnes relations qui se sont faites au moment de la Bourse du Commerce. Donc leurs destins seront liés pendant quelques années.
Emmanuel Paquette, sur ces liens justement Pinault et autres.
Oui, de toute façon, on voit effectivement, c'est ce dont on parlait précédemment, c'est qu'avec les arbitrages budgétaires qui doivent être faits au niveau de la mairie de Paris, le mécénat a tendance à se développer de plus en plus, et notamment les grands milliardaires qui sont des mécènes artistiques.
Et les deux principaux, d'ailleurs.
Voilà, donc effectivement Pinault d'un côté et Bernard Arnault de l'autre, qui sont aujourd'hui, qui ont tous deux aujourd'hui des musées. Qui,
avec la bourse de commerce qui va ouvrir pour Pinault.
Exactement, celle de Bernard Arnault, bah, son musée, lui, est déjà ouvert pour le coup. Même si c'est pas dans Paris même, hein, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même un des gros musées qui a justement bénéficié fiscalement d'avantages assez importants qui ont été d'ailleurs pointés du doigt par la Cour des comptes. Oui. Mais il se trouve donc aujourd'hui, effectivement, comme le budget est contraint, et ben, on fait de plus en plus appel au soutien du privé et notamment aux milliardaires, qui sont des grands mécènes, toujours pour la culture.
On le voit par exemple avec les deux opérations Réinventer Paris. Là, c'est Monsieur Missika qui suit ça. Qui, a priori, on peut dire que c'est une magnifique opération. C'est, vous prenez des terrains, des lieux dans Paris qui sont un peu en déshérence, et puis vous demandez de lancer des projets. Et les 1000 projets fleurissent, comme disait l'autre. Et puis on en retient un ou deux.
C'est
ou pas.
C'est Mao Tse-Tung.
Ouais, voilà, c'est pas terrible.
L'autre.
Mais le problème, c'est qu'il y a eu des critiques sur cette opération, parce que c'est confié à des opérateurs et à des promoteurs privés. Des bâtiments, les bijoux de famille quoi de la ville, et puis en gros monter des choses entre vous, trouver des architectes ont beaucoup grogné hein, sur le côté mais attendez, c'est où la commande publique là?
Ouais.
C'est où vous squeezez ça, c'est donc vous filez ça au privé et nous on est un peu les dindons de la farce, sauf ceux évidemment qui ont la chance. Parce qu'il y a parfois 100 candidats à un prix et les 99, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Quoi, hein.
Voilà. Alors Anne Hidalgo va avoir l'occasion à la rentrée et par la suite d'inaugurer tout un tas de couper des rubans finalement, puisqu'il y aura le musée d'art moderne au printemps 2020, le musée de la Libération en août 2019 et le théâtre du Châtelet complètement restauré en septembre 2019 qui va réouvrir avec ce sera un grand spectacle avec la nouvelle directrice Ruth Mackenzie. Vous pensez quoi sur le théâtre du Châtelet?
Ben, ce qui est intéressant, c'est un enjeu parce que faut savoir que le Châtelet avant était dirigé par Jean-Luc Chopelin et lui au moins avait trouvé une identité au
la comédie
du
musicale
Châtelet, sur la comédie musicale.
Américaine,
au moins il
n'y
avait
d'ailleurs
pas de concurrence.
Mais ça plaisait
avec,
ou pas d'ailleurs, mais il n'y avait pas
ça
de concurrence.
Ça plaisait ou pas, mais il n'y avait pas de concurrence avec l'offre d'État.
Avec l'Opéra de Paris.
Il voulait pas faire la course à l'échalote avec l'Opéra de Paris. De toute façon, il aurait perdu vu les moyens.
Fait dans une grande ville comme Bordeaux, Lyon ou Marseille mais nécessairement.
Mais c'est normal. Mais si vous êtes à Bordeaux, vous êtes obligé de faire le répertoire de l'Opéra. Puisqu'il n'y a pas concurrence de lieu. Là, si vous avez l'Opéra de Paris, vous faites autre chose. Donc, il a fait autre chose, ça a été critiqué par certains, mais d'autres mais il a rempli les salles, etc. Ce que va faire Mme Mackenzie, alors là, c'est une double opération. Elle maintient aussi une partie de comédie musicale. Il y en a, il va y avoir, je ne sais plus combien, 40-50 représentations d'un Américain à Paris. Mais il y a aussi des ouvertures à quelque chose de plus contemporain, j'ai envie de dire, voilà.
Exigeant,
etc. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va marcher? Aura-t-elle les moyens? Là, c'est encore trop tôt pour répondre.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Ce soir, nous parlons de la politique culturelle de la ville de Paris à un an des municipales, une sorte de premier bilan pour Anne Hidalgo. Et nous sommes avec Claire Baumeller du Figaro, Michel Guérin du Monde, Emmanuel Paquette de l'Express et Zoé Sfez. On a évoqué déjà une certaine quantité de sujets. On va revenir dans un instant sur le patrimoine, sur les places aussi, les places qui sont rénovées, les réformes de fonds, notamment les tournages avec vous, Emmanuel Paquette. On parlera des bibliothèques, des conservatoires, des Olympiades de la culture. Peut-être pour commencer cette seconde et dernière partie, les arts numériques, Emmanuel Paquette, on a l'impression qu'elle a essayé, Anne Hidalgo a essayé d'être présente sur ces secteurs, que ce soit la Gaîté Lyrique, la Halle Fraissinet, le musée dit de l'Atelier des Lumières, alors qui n'est pas entièrement ville de Paris bien sûr, ou encore le Forum des Images avec une offre de création numérique pour les scolaires.
Oui, effectivement, elle a beaucoup communiqué sur l'ouverture d'une école Tumo, qui vient directement, exactement, qui est un concept qui vient d'Arménie, hein, qui a été créé en 2011. Donc qui est ouvert à des jeunes, là en l'occurrence des 12-18 ans, pour être sensibilisés au numérique et à la création. Donc ça peut être la création dans les jeux vidéo, dans le cinéma, dans le graphisme. Et l'établissement a ouvert ses portes en septembre. Et donc les enfants, après leur cours, peuvent y aller. Alors il n'y a pas de diplôme qui est délivré, mais en tout cas ils peuvent être sensibilisés à ce genre de choses. L'école est entièrement gratuite, donc l'idée c'est d'avoir, vous savez c'est le terme à la mode, inclusif, du numérique inclusif, pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Et pour l'instant, ça semble être plutôt un succès. Alors, il y a eu des critiques, notamment de réalisateurs et de producteurs, du monde de la culture qui ont estimé que le mettre dans le Forum des images, c'était diluer et enlever une partie des programmes et des missions du Forum des images.
Comme si le Forum des images n'était pas lui-même dilué déjà dans les halles, mais c'est un autre débat.
Exactement.
Entre l'UGC, voilà, où tout le monde va sans s'arrêter très souvent au Forum des images et en cherchant son chemin. Enfin,
ça, donc ça fait
dans l'avenue du cinéma, parce que c'est son nom, je crois.
Exactement. Et donc ça fait partie effectivement des...
Sur la halle Fraissinet, la Gaîté Lyrique, on a un petit peu évoqué.
Oui, alors Gaîté Lyrique, effectivement, on est dans un changement de gouvernance. Il y a eu un nouveau directeur qui a été nommé.
Une directrice
d'ailleurs, exactement. Et donc, pour l'instant, le bilan précédent n'était pas vraiment reluisant. Donc, on attend de voir si la Gaîté Lyrique va pouvoir se relancer, ce qui semble pour l'instant difficile, hein, comme vous l'aviez noté précédemment. Le lieu n'attire relativement peu de monde, mais des jeunes, plutôt profil féminin et plutôt CSP++.
En même temps, il y a un café très sympa l'après-midi, il y a des expositions, beaucoup de locations pour les salles, une très belle salle au deuxième étage.
Mais c'est votre profil, CSP++.
Voilà,
ça marche pour le festival.
Non, mais c'est ce que vous dites, c'est le vrai problème, c'est complètement contradictoire avec le public cherché par Madame Hidalgo. Elle veut, et on la comprend, ouvrir, elle est complètement obsédée par la médiation, par le faire en sorte que faire venir des nouveaux publics, etc. Et alors, la Gaîté Lyrique, c'est... Mais pourquoi pas, hein, il en faut pour tous les goûts, on va dire. Et pour tous les types de publics, même les plus riches, les plus cultivés.
Mais voilà. C'est très en numérique, très jeux vidéo, etc., voilà. Zoé.
Oui, effectivement, et ça a plutôt bien marché quand il y a eu des festivals. C'est-à-dire que ça marche beaucoup à l'événementiel, la Gaîté Lyrique. Un week-end, il y a eu des très beaux festivals queer, donc sur des problématiques, disons, très, très politiques, engagées, où là, ça peut drainer d'autres formes de public. Mais effectivement, c'est peut-être pas la visée première d'un... En tout cas, peut-être pas le cahier des charges et la démission du lieu tel qu'il était voulu au départ. Il y a ça, et puis on peut revenir quand même sur Anne Hidalgo, qui, effectivement, s'est vertue. Là, on a parlé du fait que c'est une directrice qui remplace le directeur qui est parti au bout de quelques mois.
Quelques années quand même.
Bruno Julliard, juste avant de quitter ses fonctions, disait que l'un des aboutissements, l'un des vraies réalisations de ce mandat en matière de culture, c'était par exemple la parité dans les nominations de la ville de Paris, que ça faisait partie des achievements, avec un objectif de 50-50 à la fin du mandat, qui sera atteint. Pour le coup, il sera atteint. Mais voilà, mais ça, c'était assez rigolo qu'il le présente comme finalement le grand œuvre versus justement des grands lieux ou des grands projets.
Laetitia Stagnara, c'est le nom de la directrice de la Gaîté Lyrique. Emmanuel Paquette, la Halle Fraissinet et puis l'Atelier des Lumières aussi.
Oui, alors la Halle Fraissinet, aujourd'hui station F, alors c'est pas vraiment culturel hein, pour le coup, parce qu'on est,
c'est
on est plus
que
dans
ville de Paris, même
c'est pas
si
que
ça
la
ville
de Paris.
Un peu, oui.
Oui, parce que le lieu, c'est la ville de Paris qui l'a cédé en fait à un consortium. Donc de la CDC, de la Caisse des dépôts et consignations d'un côté, de Xavier Niel, donc le fondateur d'Iliad Free, de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est un des plus gros incubateurs au monde, donc avec énormément de start-up. C'est pas vraiment culturel, mais en revanche, tous les hommes politiques y vont, puisque ça devient un moyen de s'afficher. Notamment la maire de Paris y est allée à plusieurs reprises, le président de la République également. Ça permet de dire qu'on est dynamique, de s'afficher avec des jeunes. Donc ça, c'est... De ce point de vue-là, c'est quand même pas mal pour les hommes politiques.
En revanche, qui a vu l'Atelier des Lumières, l'exposition Klimt et désormais Van Gogh?
Moi.
Michel Guérin.
Oui.
Commencez rapidement.
Moi, j'aime pas.
C'est de l'immersive art.
J'ai été
d'abord
très,
ce que
très
c'est.
Alors voilà ce que c'est. Alors d'abord, c'est une initiative privée. Hein, faut le savoir, c'est pas du tout la ville de Paris, c'est une fondation. C'est Culture Espace, qui est un acteur culturel privé qui intervient dans plein de villes en France et qui fait des choses formidables.
Et à Paris aussi, le musée Magnol.
Donc je défends complètement Culture Espace, c'est pas la question. Là où je dédoute, c'est qu'en fait, c'est l'idée, c'est de faire découvrir l'univers d'un peintre, non pas à travers des œuvres originales, mais à travers un spectacle visuel, pour moi, beaucoup plus proche du spectacle
3D,
de l'exposition. Où vous êtes dedans, puisque vous marchez dans les œuvres, c'est immersif, voilà, c'est très à la mode.
C'est très beau.
Il y a le projet DAO aussi, qui est de l'art immersif entre le théâtre du Châtelet. On ne va pas se lancer là-dedans. Enfin, bon, bref, l'art immersif, c'est très à la mode. Et l'idée, là où je suis un peu gêné, c'est quand les organisateurs, en tout cas les promoteurs, disent que c'est de la pédagogie pour faire connaître des peintres. Non, on n'apprend rien sur les peintres, il n'y a pas de texte. Il faut monter à l'étage près des toilettes pour avoir vaguement les dates des peintres. Et je voyais les jeunes, tout le monde, en fait, ce sont des espaces à selfie.
Après,
les
gens Van Gogh, se prennent.
Il ne faut pas lui faire porter ce qu'il n'est pas, ce lieu-là.
Claire Baumeler, qui défend l'art contemporain, alors que dans le Figaro, souvent, on l'attaque, mais elle le défend.
Quoi? Mais non, vous ne lisez pas les pages, mon cher.
Je lis.
Il faut lire. Non, faut pas lui faire porter ce que ce n'est pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si on projette un regard de conservateur en disant, eh bien, le tableau de Klimt n'est pas exactement celui-là, ça, c'est un peu, c'est déstructuré, c'est comme un papier peint, etc. Donc ce n'est pas vraiment de l'art. Évidemment, là, on fait chou blanc. Mais si...
C'est pas ce que je dis, Claire.
Non, mais si, parce que tu dis que c'est pas l'œuvre dans son intégralité, non, et qu'on ne peut pas apprendre.
Non, mais c'est pas ça, mais qu'il y a un minimum de pédagogie pour accompagner les jeunes, c'est beaucoup de jeunes qui y vont.
Il faut quand même dire que c'est un immense succès phénoménal.
Ouais, c'est ça, le succès énorme.
Tout est complet pour le mois d'avril.
En fait, c'est pas que des jeunes, c'est beaucoup des familles.
Oui, parce avec que des c'est enfants de 4 ans,
c'est assez cher l'entrée. C'est, bien, 4, alors, c'est 14 euros, donc finalement...
Que chacun y aille et se fasse...
Que tes enfants courent sur un champ de Van Gogh, c'est peut-être mieux qu'un vieux soir.
Alors, parlons maintenant de trois réformes de fond qui sont aussi importantes. Les conservatoires, on va évoquer les tournages, notamment pour attirer des films, des tournages de films. Mais justement, les bibliothèques, il y en a 10 qui vont être ouvertes le dimanche. L'objectif, c'est 12 en fin de mandature. Les bibliothèques, c'est un lieu au fond social... ça coûte cher, mais beaucoup de gens y vont constamment. Il y a du Wi-Fi, c'est aussi un endroit où on peut lire la presse. Sur la politique concernant les bibliothèques, une réaction peut-être ?
Bibliothèque, il a fallu quand même que l'État s'en mêle pour que ça ouvre le dimanche, parce que ça a été un des grands dossiers d'Aurélie Filippetti. Alors c'était paradoxal parce qu'elle n'avait pas la main justement sur les bibliothèques municipales.
Et de Macron aussi, puisqu'il a fait ce fameux texte.
Ça a été beaucoup porté par le ministère de la Culture parce que les bibliothèques sont devenues des lieux de vie. C'est devenu des médiathèques aussi. Les étudiants vont étudier là toute la journée. On emprunte mais on ne fait plus que ça. Et c'est beaucoup grâce à l'État que les municipalités ont ouvert. On en est à 20.
C'est pas mal.
Sur les bibliothèques, encore une fois, Paris a une chance énorme. C'est sa sociologie.
C'est qu'il y a la Bibliothèque nationale de France.
Il y a ça. Mais il y a aussi une demande d'étudiants énorme, etc.
Énorme.
Tout le monde pousse ce petit énorme.
Passé des partiels à Paris en étant étudiant, vous avez tout fait.
Mais pendant 20 ans, les bibliothèques en France ont perdu du public. Il ne faut pas oublier ça quand même. On se disait, c'est la numérisation, on va tuer les bibliothèques, etc. C'est pour ça qu'elles sont devenues des lieux de vie. Mais Paris n'a jamais eu ce problème. Donc sur l'action des bibliothèques, Paris n'a rien à voir avec la question des bibliothèques ailleurs en France.
La réforme des conservatoires, là c'est une réforme un peu éducation artistique, très importante pour Anne Hidalgo. Elle veut doubler le nombre d'élèves dans les conservatoires, c'est en tout cas l'objectif. Beaucoup de réformes structurelles ont été faites, dit-on. Tous les élèves de CP peuvent accéder à des cours depuis 2018. Ça c'est pour les conservatoires. Autre réforme de fond, celle des tournages, Emmanuel Paquet, tournages à Paris.
Oui, alors en fait depuis la modification du crédit d'impôt cinéma en 2016, il y a eu une explosion des tournages dans la ville de Paris. Plus de 1000 en 2017. Hein. D'ailleurs, à l'époque, la ville de Paris s'en est félicitée dans un communiqué de presse. À cette époque-là, il y a eu Mission Impossible 6 de Tom Cruise, qui a été le gros tournage à Paris, notamment avec la privatisation du toit de Bercy. Il a fallu demander donc au ministère de privatiser le toit pour qu'un hélicoptère puisse y poser.
Comme pour PNL, la vidéo autour de la Tour Eiffel filmée par drone.
C'est ça, exactement.
Et ça rapporte de l'argent ?
Oui, ça a rapporté de l'argent. Alors,
la ville ?
Pour Mission Impossible, ça aurait rapporté entre 35 et 40 millions d'euros de retombées financières en direct. Via les dépenses faites lors du tournage. Il y a eu aussi les Animaux Fantastiques 2, donc les crimes de Grindelwald de Warner, qui a été tourné en partie à Paris. Et puis surtout les nouveaux acteurs du type Netflix, dont le final de Sense 8, Sense 8, a été tourné à la Tour Eiffel, justement.
Toujours, donc,
effectivement, en 2018. Et depuis, on a pu voir aussi Amazon tourner un Jack Ryan. Alors là, en revanche, c'était pas vraiment bon pour la ville de Paris, puisque une partie se situait dans le 9-3 et dans lequel il disait que c'était un nid à terroristes, que les Français détestaient les musulmans. Donc ça donnait une piètre image de la France et de l'intégration.
Mais ça, on ne peut pas à la fois vouloir que les films soient tournés à Paris et choisir ce que les films vont dire.
Exactement.
Bon, c'est toujours le problème. On va devoir terminer cette émission dans quelques minutes. Je vous laisse à chacun peut-être un sujet à traiter. La question des places rénovées, notamment la Bastille, la République, etc. Il y a de l'art un peu partout. La question des voies sur berge avec l'absence d'art, justement, qui est assez critiquée, même s'il y a quelques tentatives qui ont été faites. La petite ceinture aussi, les ponts sur les cadenas sur les ponts ont été enlevés, les amoureux se plaignent. Et puis le patrimoine avec les églises, notamment la façade Saint-Eustache qui va être restaurée, qui est en cours, le Delacroix Saint-Paul qui va bientôt revenir. Chacun d'entre vous peut prendre un point de ces différents sujets pour terminer cette émission. Claire Baumeler.
Sur les églises, ce qu'on peut voir, c'est que ça avait pris énormément de retard parce que Bertrand Delanoë, il cultivait des relations un peu tendues avec le clergé. Par idéologie, je dirais. Le clergé le lui rendait bien, c'était des relations tendues. Donc quand une église, il y en a 96 qui appartiennent à la...
Quand elle s'écroulait, il l'a laissé s'écrouler ?
Non, pas vraiment quand même, mais il n'avait pas l'oreille du maire. Ça c'est très important.
On a 96.
Oui, c'est très important d'avoir l'oreille.
C'est à la ville de les.
Donc, c'est à la ville de les entretenir.
La loi de 1905 le demande.
Voilà, exactement. Donc ils ont pris du retard, or on sait... en matière de patrimoine, que si tu ne fais pas l'année à l'année ou jour le jour, ça coûte 10 fois plus cher, parce que l'eau s'infiltre, parce que les toitures, etc., etc. Donc là, tout de même, il y a un plan qui s'est mis en place pour pouvoir restaurer Saint-Sulpice, Saint-Philippe-du-Roule,
70 millions etc. sur la période 2014-2020.
Voilà, mais ça apparaît comme un chiffre énorme et on est assez loin du compte. Mmh. Alors, il y a comme des échafaudages.
Mais c'est pas un tonneau des Danaïdes dans lequel on va mettre de l'argent.
C'est un tonneau des Danaïdes. Mais ce qu'on veut dire,
ouais, enfin, ils auraient pu en mettre un peu quand même. Hein.
Elle pas 70 millions.
Elle s'est rendue compte de quelque chose. Elle s'est rendue compte que la guerre anticléricale, ça ne servait à rien parce que les églises, c'était des musées à ciel ouvert. Mmh. Et c'est-à-dire que quand on a des Delacroix...
Enfin, il y a un Delacroix et qui d'ailleurs n'y est plus en ce moment.
Non, pour l'instant, il n'y est pas. Mais il va revenir en septembre. Il y a des fresques extraordinaires. Il y a un mobilier formidable. Mmh.
Des Delacroix, il y en a beaucoup d'autres à Paris, cela étant.
Voilà.
Dans son livre.
Elle s'est rendue compte que c'était touristique et qu'il fallait faire quelque chose aussi à cause de ça. Ça appartenait pas que aux catholiques.
Dans son livre, Pierre Vivarès, Notre Église est celle au bout de la rue, publié aux presses de la Renaissance, il attaque la maire très sévèrement et notamment c'est lui qui gère le Delacroix puisque c'est l'église Saint-Paul. Il a l'air pas content, Pierre Vivarès, dans son livre, contre ce que fait la maire et la mairie de Paris sur les églises. Michel Guérin, votre mot de la fin.
Alors, deux petites choses qui n'ont rien à voir. Heureusement que l'histoire des cadenas, ça s'est arrêté.
Les ponts allaient s'écrouler.
Les ponts allaient s'écrouler, cet objet vraiment affligeant qu'on allait c'est faire pendant trop longtemps. Heureusement qu'on
notamment
a...
sur le pont neuf, oui.
Il y avait partout même maintenant. Enfin, c'était vraiment... C'est... Enfin bon, bref, voilà.
Vous êtes contre l'amour.
Oui, j'adore l'amour, mais pas en cadenassé. Et alors, ensuite, il faut saluer quand même, vous l'avez dit, mais qu'il y a un adjoint à la vie nocturne.
Frédéric Ocard.
Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont des adjoints à la vie nocturne. En général, la vie nocturne, on veut plutôt la brimer dans les villes. C'est une source quand même d'agacement avec les riverains. Et c'est quand même formidable qu'il y ait une ville... Il y a une telle vie nocturne. Il faut savoir quand même, ils ont fait un appel à projet pour les soutenir. Je crois qu'il y a quand même 400 à 500 salles à Paris qui pourraient être soutenues, qui sont à la fois des bars, des lieux de concert, de tout ce que vous voulez. Enfin, entre culture et vie sociale et vie nocturne, c'est merveilleux, quoi. Bon, et voilà. Et c'est encore une fois de plus cette chance géniale de Paris, qui est une ville qui a bougé quand même, qui s'est pas mal endormie et qui redevient, je pense, une ville grâce à l'État et grâce un petit peu à la ville. Et de redevenir une ville quand même assez intéressante.
Pour le mot de la fin, Zoé Cesse, brièvement.
En deux mots, moi, il y avait une des dernières mesures que proposait Bruno Julliard, mais en fait, il a démissionné deux mois après, donc on ne sait pas du tout si elle aura été retenue, qui concerne, parce que là, on parle effectivement des mastodontes, on parle de cette ville plutôt riche, bien pourvue en matière de culture, avec des vraies habitudes culturelles. Parmi les propositions un peu voilà, qui passaient inaperçues, mais qui étaient intéressantes, il y avait l'idée d'une porte ouverte des ateliers d'artistes, mais qui serait vraiment encadrée par la ville de Paris et qui mettrait en valeur les artistes, et un soutien de la ville aux jeunes artistes, parce qu'il faut quand même le dire, ils sont tous quittés Paris, nos amis les artistes, parce que c'est trop cher, et parce que souvent quand ils sont jeunes et qu'ils sont pas dans les réseaux, et ben ils vont ailleurs. Et donc il y avait 2-3 belles petites mesures qui auraient pu exister et servir, et je pense qu'elles ont été abandonnées avec le départ de Bruno Julliard.
Et puis il y a la question des places, les 7 places rénovées, Place de la Bastille, La Nation, La République, le Panthéon, Madeleine, etc., Place des Fêtes. Alors là, les places ont été refaites, l'objectif c'est de faire reculer la voiture.
Oula, pas encore.
On peut en débattre, elles sont en cours d'être refaites pour, en tout cas, La République c'est fait, La Bastille est en cours. L'idée c'est de faire reculer la voiture, du coup les skateboards arrivent, le terre-plein central va permettre des spectacles, dit-on, à La Bastille. Donc il y a des projets culturels, malgré tout, la Place de la République c'est pas un grand succès, l'esthétique est discutée. Le café a brûlé, les fontaines d'eau ne marchent pas toujours, les voies piétonnes, on est bousculé par les taxis, les véhicules d'urgence,
enfin,
et toutes les voitures.
Mais moi j'aime bien.
Est-ce qu'il faut de l'art sur ces places qui sont en train d'être rénovées ?
Non.
Bien, on termine cette émission avec une réponse formidable.
Mais il y en a de l'art, il y a cette statue de la République que...
Mais qui est là depuis...
Qui est des plus lettres de Paris. Hein, par...
Comment ça?
Bon, on dira que les goûts et les couleurs se discutent.
L'agression à la laïcité de 1950.
Celle de la nation est mille fois plus belle. Il faudrait les inverser.
Or, c'est ça.
Non, mais on peut dire qu'avec la nouvelle place, on peut regarder les bas-reliefs qui sont en bas de la statue, ce qu'on ne pouvait pas voir avant, voilà. Et ils sont magnifiques.
Terminons donc sur cette note positive. Merci infiniment à Claire Baumeler, Michel Guérin, Emmanuel Paquette, Zoé Sfez. Soft Power ce soir était consacré à la politique culturelle de la ville de Paris. On y reviendra sûrement dans la période préélectorale avec sans doute certains acteurs. Ce qu'on n'a pas fait ce soir puisqu'on était avec des journalistes pour respecter les temps de parole entre familles politiques et en l'occurrence pour les éviter et la difficulté que ça pose. Soft Power, dans un instant, la seconde partie de cette émission à 20h10, le club de la presse numérique. Nous parlons ce soir de la nomination de Cédric O pour être en charge comme secrétaire d'État au numérique. Et dans un instant, Zoé Sfez reçoit Valérie Julien Grézin. Tout ça à suivre après Kurt Cobain sur France Culture. I'm not like them, back in Britain. The sun is gone, I have a light. The day is done, I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just have. Il s'est suicidé le 5 avril 1994, il y a 25 ans, au moment de ce triste anniversaire. L'héritage de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, reste intact. Des dizaines de livres, son journal, des articles, des vidéos inédites et plusieurs documentaires sortent ou paraissent cette semaine. En fait, précisément l'anniversaire de sa mort ce week-end pour lui rendre hommage et tenter d'expliquer ses intentions. « None of you will ever know my intentions », avait écrit Kurt Cobain, un génie créatif dont la mort, entre drogue, dépression, désamour personnel et tension au sein de son groupe Nirvana, il y a un quart de siècle, restera durablement un symbole.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Valérie Julien Grinzin.
Bonsoir Zoé Sfez, merci de m'accueillir.
Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes docteur en philosophie et vous dirigez ce cabinet ASM Conseil, c'est à Lyon, et vous êtes venu d'ailleurs de la capitale des Gaules jusqu'à nous pour évoquer un livre que vous co-signez avec le philosophe Yves Michaud qui s'appelle Mutation numérique et responsabilité humaine des dirigeants. Alors on l'a dit, vous travaillez dans ce cabinet de conseil, vous allez nous expliquer exactement de quoi évidemment ça parle. Vous êtes aussi chargé d'enseignement en master de philosophie et management à l'Université catholique de Lyon. Et vous intervenez aussi à l'Université Jean Moulin Lyon 3. La philosophie dans l'entreprise, vous, c'est votre métier,
oui.
Puisque c'est ce fameux cabinet de conseil. Et dans ce livre, vous réfléchissez, comme son nom l'indique, aux mutations, à ce que le numérique finalement fait à l'entreprise et à ses dirigeants. C'est à la fois des problématiques qui sont exposées, des dialogues que vous menez avec des universitaires, des chefs d'entreprise, des retours d'expérience. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, peut-être plus que jamais, l'entreprise a besoin de philosophie? Dure comme question. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle en a plus besoin, l'entreprise, aujourd'hui, avec cette mutation numérique?
Alors, je ne sais pas si l'entreprise a plus besoin de philosophie aujourd'hui, mais en tout cas, elle a plus conscience du besoin de prendre le recul pour la réflexion. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, puisque justement, et c'est un des enjeux du livre, la mutation numérique a pour effet d'accélérer les rythmes, a pour effet également de rendre la proximité possible avec une ubiguïté qui donne l'impression qu'on peut être connecté à tous et donc que tout peut se gérer dans l'immédiateté.
Évidemment, c'est ça que vous pointez d'ailleurs en début, en constat de ce livre. Vous dites, voilà, nous sommes philosophes, mais nous ne pleurerons pas l'ancien temps, puisque là n'est pas l'objet. Nous ne critiquons pas d'ailleurs cette révolution numérique, parce que c'est pas notre métier, c'est pas l'enjeu de ce livre. Nous allons essayer, vous le dites tous les deux, vous êtes tous les deux donc philosophes, et vous avez des liens avec l'entreprise particulièrement vous essayez de comprendre finalement quels sont ces fameux enjeux, ce que ce numérique fait aux dirigeants et à notamment au manager. Et vous expliquez bien d'ailleurs dans une première partie de votre livre comment le numérique aussi change la place de l'entreprise dans la société. Il y a une partie de votre livre qui s'appelle « Je crois quand l'extérieur n'est plus l'extérieur ». Vous allez peut-être me corriger. Qu'est-ce que ça change ? Il y a cette injonction presque à ce que l'entreprise soit plus démocratique. Elle existe plus en fait dans l'imaginaire collectif ?
Alors, la suppression des frontières qu'amène la mutation numérique, la suppression des frontières entre l'entreprise et la société vient du fait qu'on est en permanence connecté et qu'il y a finalement un droit de regard permanent de la société civile sur l'entreprise, mais également que avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les mails qui arrivent, y compris dans un temps entre guillemets potentiellement privé, l'entreprise entre aussi dans la vie de chacun. Donc, du coup, c'est le vivre ensemble qui est questionné. Comment, avec cette évolution, l'entreprise peut prendre toute la mesure de ses responsabilités sur l'évolution de la société. C'est vraiment ce qu'on a voulu creuser au travers de ce livre. Peut-être pour précision, vous dites, bon, je connais l'entreprise, effectivement, en tant que conseil, depuis une trentaine d'années maintenant, et fondatrice du cabinet ASM Conseil, qui est spécialisée dans l'accompagnement des transformations. On travaille avec des équipes dirigeantes et avec les managers des entreprises pour identifier quel va être l'impact des évolutions de l'entreprise,
donc quelle qu'elle soit.
La mutation numérique en est une, mais il y en a d'autres, plein d'autres. On va parler de ça ce soir. Quel est l'impact sur le sens de l'engagement pour chacun? C'est vraiment la question centrale. Comment garder le sens de son investissement dans le travail? Comment créer des communautés professionnelles qui permettent aux personnes de se développer et qui permettent également aux personnes de contribuer à un objet qu'elles considèrent comme un objet favorable à la société.
C'est ça qui est intéressant parce que... Excusez-moi, c'est moi, parce que vous le dites d'ailleurs, il faut que l'entreprise doit clarifier sa raison d'être dans ce nouveau monde, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus d'une certaine manière avoir un but gratuit qui est le sien propre, le seul d'ailleurs finalement. Il faut que cette raison d'être, d'une certaine manière, ait ou pas des conséquences, des résonances avec les questions sociales. Et vous le dites, c'est aussi d'avoir un... vous l'avez dit, d'être de créer des liens et d'être engagé. Il y a une partie assez intéressante où vous pointez du doigt une chose qui est assez évidente mais qui est complexe, c'est qu'à la fois le fait d'être de plus en plus connecté nous rend de plus en plus autonomes et en même temps nous isole et nous rend plus fragiles. Ça, c'est vrai à quel point? Vous le notez à quel point dans l'entreprise, ça, justement?
On le note dans le fait qu'il y a de plus en plus un management qui se fait par les nombres et par les données. Avec un risque, je dis bien un risque, parce que la preuve en est, c'est la preuve qu'on a voulu faire. On est à la fois humaniste et pragmatique et optimiste, vigilant, on le dit dès l'introduction. Il y a des entreprises qui trouvent l'équilibre entre cette mutation qui est une mutation technologique, qui permet de gérer des données, qui permet de connecter les personnes à distance, mais également la prise en compte de l'exigence de reconnaissance de la contribution de chacun, l'exigence de personnalisation de la coopération.
Et c'est en plus une urgence, et ça vous le dites assez quand même dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a aussi, puisqu'on parle de dirigeants et même de managers, et d'ailleurs vous le dites vous-même au moment où vous animez l'un de ces entretiens qui sont retranscrits dans ce livre, on est sur des managers aujourd'hui ou des dirigeants qui ont en moyenne entre 45 et 70 ans et qui doivent attirer les fameux millénials qui ont plutôt moins de 30 ans. Et là, au-delà même de la maîtrise des outils, ça on en parle souvent dans Soft Power, il y a une question de culture et de résonance entre les buts de chacun. Qu'est-ce qui doit être le nouveau manager d'aujourd'hui, selon vous? Qu'est-ce qu'il peut être? Qu'est-ce qu'il doit chercher pour justement qu'il existe ce lien entre un manager aussi de cette génération et qui vient d'un monde plus vertical et un plus jeune qui n'a pas nécessairement non plus les clés de ce nouveau monde?
Exactement. On décrit, je pense qu'il faut parler de digital leadership. Dans le digital leadership, une des caractéristiques, c'est l'horizontalisation des modes de coopération. Hein, vous parlez de verticalisation, c'est l'ancienne culture. Aujourd'hui, il y a un accès à l'information, il y a un accès aux données. Tout collaborateur peut être informé de ce qui se passe dans l'entreprise via des médias extérieurs. Dans ce cadre-là, la co-construction est absolument essentielle. Hein, pouvoir créer les conditions d'une co-construction autour d'une raison d'être commune, autour d'une finalité qui permet à chacun de contribuer, ce sont deux caractéristiques très importantes pour le digital leader. La troisième, c'est cette capacité de prise de recul. Hein, parce que malgré tout, il faut... un leader doit apporter quelque chose à l'entreprise. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une possibilité de donner du sens à la multitude d'informations. Et c'est ce qu'on appelle la recherche de consistance culturelle. Vous avez abordé ce changement de culture. La recherche de consistance culturelle, c'est quoi? C'est s'assurer que partout dans l'entreprise, les personnes puissent faire le lien entre ce qu'elles ont à faire, la manière dont elles le font, et la fameuse raison d'être de l'entreprise.
Sa finalité et sa raison d'être. Et ça, effectivement, ça fait partie des... La question du temps est une des questions que vous abordez, disons, frontalement. Et vous citez d'ailleurs plusieurs exemples de prise de décision, prise, disons, dans la précipitation, parfois, par certains leaders. C'est-à-dire qu'en réalité, on dispose parfois de trop d'informations. On ne voit pas celle qui sera capitale. Ou on est, disons, poussé, puisqu'on est leader, à prendre une décision au vu de la quantité d'informations dont on dispose. Quel est le conseil majeur, donc, de ce point de vue-là?
Le conseil majeur, avoir conscience de cette accélération et donc volontairement créer à l'intérieur de son agenda de dirigeant, très simplement, je dirais, mais c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à faire, du temps. Du temps pour la réflexion, du temps pour les discussions réelles, concrètes, en face à face avec les acteurs de l'entreprise. Et préserver des espaces de délibération à l'intérieur d'entreprise sur la manière dont la collaboration peut continuer à reconnaître les personnes et non pas se passer des personnes. Ça, c'est sous l'effet des algorithmes.
Très belle partie de votre livre sur la collaboration et évidemment la coopération. Et d'ailleurs, vous le dites, apprendre à dire parfois je ne sais pas ou je ne sais pas encore. Merci beaucoup Valérie Julien Grinzin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc la dirigeante, vous êtes la fondatrice et la dirigeante du cabinet ASM Conseil à Lyon. Vous êtes philosophe et vous co-signez ce livre Mutation numérique et responsabilité humaine des dirigeants avec Yves Michaud. C'est aux éditions Odile Jacob.
Merci.
Le temps de vous recommander un livre, petit clin d'œil numérique, notre livre, on dira alors, il est signé Cliff Thompson et il s'agit d'une histoire de la Silicon Valley à travers ses codeurs. L'ancien journaliste du magazine Wired publie ce livre pour comprendre, tel finalement un anthropologue, comment fonctionne la tribu des développeurs numériques à San Francisco. Et au-delà des algorithmes, il a d'abord découvert des êtres humains. C'est déjà une bonne nouvelle. Coders by Cliff Thompson vient de paraître en anglais chez Penguin Press.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique à 20h passé de 13 minutes en direct sur France Culture ce soir dans Soft Power. Cédric O, c'est son nom de famille, O, une seule lettre, a été nommé cette semaine au poste de secrétaire d'État au numérique. On vous l'annonçait d'ailleurs en direct dimanche dernier dans cette émission où il remplace Mounir Majoubi qui se consacrera désormais à son mandat de député, mais aussi à la conquête de l'investiture La République En Marche pour la mairie de Paris. Quel bilan peut-on dresser après 2 années d'action pour Mounir Majoubi? Qui est Cédric O, le nouveau monsieur numérique du gouvernement, et surtout, que sait-on de sa feuille de route? Pour en discuter ce soir avec moi en studio, Gilles Fontaine, journaliste à Challenge, Emmanuel Paquette, journaliste à L'Express, qui est resté avec nous. On commence avec vous, Emmanuel.
Oui, alors on peut dresser déjà un premier bilan.
Mounir, d'abord.
De Mounir Majoubi, effectivement. Donc c'est plutôt un bilan mitigé, parce que c'était un secrétaire d'État qui était extrêmement bon communicant. On l'a vu plusieurs fois à la télé, en radio, en presse écrite. C'était quelqu'un qui communiquait très bien avec les journalistes, qui était vraiment sur tous les sujets, qui pouvait prendre la parole et savoir s'exprimer en bonne
connaissance de cause. Y compris sur les gilets jaunes.
Y compris voilà sur des sujets qui étaient un peu plus larges que son secrétariat, effectivement. En revanche, au côté bilan, c'est un peu, il part au moment où la 5G, par exemple, est lancée en Corée du Sud, puisque le lancement était prévu donc ce vendredi par 3 opérateurs télécoms, donc la téléphonie mobile du futur, celle à très haut débit, et au moment où Verizon aux États-Unis lance la sienne cette semaine. Donc, et la France, me direz-vous, eh ben on va attendre au moins 2020 pour les enchères, puisque le secrétariat d'État au numérique et puis Bercy, puis même le gendarme des télécoms ont mis un peu de temps pour mettre en place ces fréquences.
Ça veut dire qu'on est très en retard sur la 5G.
Nous, on est très en retard. Voilà, normalement, l'Angleterre devrait le lancer d'ici la fin de l'année sur son territoire, et l'Allemagne est en train de vendre ses fréquences à l'heure où on se parle. Donc, on voit bien que la France est un petit peu en arrière par rapport aux grands pays européens. Autre élément, le New Deal sur la 4G, par exemple. Donc, le deal était entre les hommes politiques d'un côté, enfin le gouvernement d'un côté, et de l'autre les opérateurs. C'était de dire, les fréquences, on va vous les faire payer beaucoup moins cher, mais en contrepartie, on va vous demander d'apporter la 4G très rapidement, un peu partout en France, pour que tout le monde ait accès à cette nouvelle technologie. Et ce New Deal a été pour l'instant respecté par les opérateurs, mais c'est directement Bercy qui s'en est occupé. Très peu Mounir Majoubi. Donc en réalité, il est resté sur des sujets qui étaient quand même relativement annexes, comme la French Tech, par exemple.
Il s'est occupé de la promotion des startups françaises, disons.
C'est ça, exactement. Et puis à disons, modifier et améliorer les processus au sein de la French Tech pour donner, par exemple, le label French Tech à une entreprise. Et puis sur la charte e-commerce, qui était un de ses grands dossiers, c'est-à-dire en gros, aujourd'hui, sur les places de marché, comme celle d'Amazon, l'idée, c'est qu'il y a des vendeurs qui viennent directement dessus, qui se servent de la puissance d'Amazon pour vendre des biens, des services ou des produits. Et ce que on peut leur reprocher, c'est que Amazon ou d'autres grands du commerce en ligne dictent leurs règles à des petits vendeurs et peuvent changer d'avis à peu près quand ils veulent, et surtout sur les commissions qu'ils pouvaient prendre. Donc il a voulu mettre en place une charte de bonne conduite que tout le monde a signée, sauf Amazon. Donc il est parti au moment où Amazon refusait de signer cette charte. Donc pour le coup, cette charte vaut pas grand-chose puisqu'Amazon est quand même le leader sur le marché français. Donc il y a eu beaucoup de paroles et relativement peu quand même d'actes autour du bilan de Mounir Majoubi.
Donc toujours sur ce bilan Mounir Majoubi, la défense d'un numérique plus inclusif, on peut quand même porter ça à son crédit, et plus de diversité, notamment avec femmes, ces femmes at numérique ou la French Tech tremplin pour les populations éloignées, disons, du numérique. Il y a eu des actions sur la dématérialisation de l'État, notamment avec France Connect, même si bien sûr on peut dire qu'il aurait pu faire plus et plus vite. Les difficultés sur le Conseil national du numérique, on peut y revenir, quasi fiasco, et puis peu d'actions sur le front de la cybersécurité. Votre avis, Gilles Fontaine, journaliste à Challenge.
Oui, moi je trouve, enfin, on va pas revenir trop longuement sur Mounir Majoubi. Je trouve mon collègue Emmanuel Paquette un peu sévère, d'autant plus que on le sait, la politique numérique, la stratégie numérique de la France, l'idée, le concept de Startup Nation, tout ça a été développé notamment à l'Élysée. C'est une thématique ou des thématiques très chères au président de la République et à son conseiller au digital qui se trouve être Cédric O. Donc on peut dire aussi que si les choses ne sont pas allées aussi vite qu'elles auraient dû ou qu'on aurait pu l'espérer, bien que Cédric O lui-même a peut-être joué un rôle là-dedans. Cédric O, c'est un profil un petit peu différent de celui de Mounir. Autant on a l'impression...
Alors c'est qui exactement, voilà, justement
Mounir Majoubi, on a l'impression qu'il était tombé un peu dans la marmite du numérique quand il était tout petit. Cédric O, c'est un petit peu différent. 36 ans aujourd'hui, HEC, diplômé d'HEC, passé par Safran, et puis une carrière politique aussi bien remplie malgré sa jeunesse. En 2006, il était dans l'équipe de campagne de DSK pour la présidentielle et c'est là qu'il avait noué ses liens avec les macronistes de la première heure, Ismaël Emelien, Benjamin Griveaux, Stanislas Guérini.
Donc il fait partie des très proches du président et un peu de... Il est même trésorier, je crois, du Mouvement En Marche.
Il a été pendant la campagne. Alors il a fait aussi la campagne de François Hollande à partir de 2010 et il était aux côtés d'Emmanuel Macron quand celui-ci s'est lancé dans la course à l'Élysée. Il était conseiller, il était trésorier, comme vous l'avez dit, ce qui lui a valu quelques problèmes. Hein, c'est un peu un comble pour un spécialiste du numérique, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où on a, en tout cas dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on a eu un peu peur à la veille du second tour, puisque le compte, la messagerie et le compte Gmail et le Drive, le Google Drive de
d'Emmanuel Macron,
de Cédric O a été piraté et à partir de là des rumeurs avaient circulé sur de potentiels comptes offshore dans les paradis fiscaux, etc. Bref, les choses se sont finalement pas trop mal.
Donc c'est un conseiller très politique, plutôt chargé des questions économiques. Ouais. HEC, vous l'avez dit. Ce qui était amusant aussi, c'est qu'il a fait partie. On l'avait annoncé pour être celui qui allait faire le casting choisir le nouveau ministre. Or, c'est lui qui a obtenu le poste.
Finalement, il a pris le job. Il a peut-être qu'aussi Emmanuel Macron souhaitait d'avoir effectivement quelqu'un de parfaitement
à lui
et 100% connecté avec ce qu'il pouvait penser. On l'a vu, Emmanuel l'a dit, en fin de parcours, Mounir Majoubi prenait quelques libertés, y compris sur sa propre communication.
Peut-être sa candidature à la mairie de Paris qui avait ennuyé était trop active.
Et lui-même disant qu'il ne faisait même plus relire ses interviews par les conseillers de l'Élysée, qu'il était libre de sa parole, etc. Peut-être que ça a servi un petit peu de warning à l'Élysée, comme à Matignon, d'ailleurs, puisqu'il conseillait aussi Édouard Philippe sur les questions.
Oui, parce que Cédric O est un conseiller à deux casquettes, ou plutôt, je ne sais pas comment on dit exactement, puisque c'est fait partie de ces conseillers qui sont à la fois à l'Élysée et à Matignon, voilà. Ce qui n'existait pas auparavant. Donc c'est une singularité de l'ère Macron, on peut dire.
Oui, alors il y a des fois il y a eu des conseillers quand même qui avaient une double casquette entre le cabinet du Premier ministre et celui de l'Élysée. Mais là, c'est vrai que c'était assez rare. Et puis sur des sujets qui étaient quand même assez importants, puisqu'il y avait le numérique, certes, mais il y avait aussi les participations de l'État. Donc aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement sensible, puisque ça recouvre quand même des grandes sociétés du type Orange et d'autres, EDF notamment, Engie, etc. Donc c'est vrai que c'est des sujets très sensibles pour l'État français.
Alors Gilles Fontaine, la feuille de route, quelle est-elle la feuille de route pour Cédric O, donc le nouveau secrétaire d'État au numérique?
Alors on l'a vu prendre la parole quelques jours seulement après sa nomination. C'était le 3 avril, donc le mercredi 3 avril, 3-4 jours après sa nomination. Il est d'abord passé à Station F, notamment rendre les médailles de la fameuse capitale et communauté French Tech. Il est ensuite allé chez Doctolib, l'une des futures licornes françaises.
Une licorne, ça veut dire une entreprise.
Une licorne, ça veut dire que c'est une entreprise.
Qui n'est pas encore cotée, mais qui est évaluée à plus de 1 milliard.
Exact, 2 dollars.
2 dollars.
Et donc, il a dit plein de choses, mais on n'a pas forcément bien compris où il nous emmenait. C'est un petit peu les critiques générales qui remontent. Donc, il a ressorti quelques évidences que la France et les entrepreneurs français devaient être meilleurs que les autres, être plus astucieux, ne pas avoir honte de s'engager. Voilà, il a beaucoup cité Mark Zuckerberg et quelques gros entrepreneurs américains à succès, disant notamment que voilà, il fallait suivre aussi l'exemple de ces grands entrepreneurs américains, l'exemple de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, des fondateurs de Google qui ont su rendre et rester humble et rendre un petit peu une part de leur réussite et emmener tout le monde avec eux. Bon, c'est un petit peu ce que font déjà nos entrepreneurs français quand on voit ce que font Marc Simoncini, Xavier Niel, quelques grands noms de notre French Tech, de notre Startup Nation en gestation, ou ce que font patrons ou des gens au sein de l'association France Digitale, c'est exactement ce qu'on fait. Voilà. Alors, on l'attend évidemment sur quelques grandes thématiques, hein, je peux en citer quelques-unes et puis Emmanuel complétera, mais en tout cas, lui, on a cité deux principalement.
La régulation des GAFA, hein, des plateformes.
Alors, lui, il n'a pas cité la régulation des GAFA, non. Justement. Il a cité deux choses, la loi contre les contenus haineux, notamment sur les réseaux sociaux, et puis la loi de régulation sur l'audiovisuel qui est annoncée pour cet été. Par contre, effectivement, vous citiez la lutte contre les GAFA, enfin en tout cas contre l'ultra-puissance des GAFA, il n'en a pas été question, puisqu'au contraire, il les a plutôt loués. On sait qu'il est assez proche de Facebook et de Mark Zuckerberg, enfin en tout cas de l'équipe de Mark Zuckerberg, puisqu'il avait organisé un déjeuner à l'Elysée avec Emmanuel Macron au mois de mai de l'année dernière. Il avait aussi organisé cet événement de Tech for Good, puisqu'il avait réussi à rassembler des entrepreneurs américains, des géants du net, pour essayer de les raisonner et de faire en sorte que ces gens-là payent leurs impôts un peu en France quand même aussi, appliquent les régulations, notamment sur la protection de la vie privée, etc. Voilà, on ne l'a pas senti très remonté contre Amazon, Facebook,
Emmanuel
Google
Paquette,
ou Apple.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, donc justement, quelle pourrait être, à vos yeux, cette feuille de route, régulation des plateformes, valorisation des startups françaises, ça il le fait, inclusivité, numérisation de services publics, on l'a évoqué tout à l'heure, mais que pensez-vous de ce que devrait être son programme ?
Bah, c'est vrai que pour l'instant, il a repris en grand les grands thèmes de Mounir Majoubi, hein, sur l'inclusion numérique notamment, hein, pour apporter le haut débit et le très haut débit à 13 millions de personnes aujourd'hui qui utilisent très peu Internet, voire pas du tout. Donc ça fait partie effectivement du phénomène d'inclusion numérique. Ça, c'est un de ses grands projets. Il y a effectivement, comme le disait Gilles tout à l'heure, la projet de loi contre les propos haineux en ligne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est arrivé, sa première semaine, il y a eu quand même... Alors, moi, je considère deux petits dérapages. Peut-être Gilles le partagera pas vraiment avec moi, mais c'est vrai quand même, il a fait l'apologie de Zuckerberg. Il a dit, lui, ne vend pas des cravates. Lui, c'est quelqu'un qui veut changer le monde. Et il dit ça, c'est quand même la semaine où Facebook a, encore une fois, laissé filtrer 540 millions de données personnelles via une application tierce logée au Mexique. Et Facebook a tout de suite essayé de réagir en disant on va tout de suite stopper ces 540 millions de données qui étaient accessibles, logées sur un serveur Amazon. Donc dire ça le jour où 540 millions de données sont accessibles sur Internet, bon, on peut considérer que c'est une faute politique ou une petite erreur. Et puis le deuxième, c'est quand même Twitter qui a décidé de bloquer une communication du gouvernement qui voulait simplement dire pour les Européennes aller voter, donc faire la promotion des élections européennes. Twitter a dit bah non, parce qu'on considère que c'est une fake news selon la loi française voulue par Emmanuel Macron, et donc a bloqué le dispositif
de publicité politique.
De publicité politique, exactement. Donc il s'est fendu d'un tweet sur Internet, Cédric O, disant qu'il allait convoquer le directeur Europe de Twitter pour avoir des explications et pourquoi le réseau social bloquait cette campagne de publicité. Finalement, il n'a pas eu à le faire puisque cette campagne a été débloquée quelques jours après par Twitter sous la pression de différents hommes politiques. Mais on voit que cette première semaine a déjà été un tout petit peu agitée.
Gilles Fontaine, quelle serait, pour conclure, votre feuille de route idéale pour Cédric O, nouveau secrétaire d'État?
Alors,
au numérique.
Bon, on l'a cité effectivement, l'inclusion numérique, ça va être un très gros thème, hein, parce qu'en plus, juste à la veille de la nomination, Cédric O, Édouard Philippe avait fait aussi une annonce, hein, sur son plan de réforme de l'État pour un État plus efficace, avec l'objectif d'être en 100% de démarches administratives en 2022. Donc c'est lui qui va devoir aussi accompagner ce mouvement-là. La 5G, ça va faire partie de ses attributions. La lutte contre la cybercriminalité, c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est vrai que son prédécesseur, on l'a pas cité, mais Mounir Majoubi avait fait plutôt un bon travail de ce côté-là pour essayer d'aider notamment les PME, PMI à trouver des armes efficaces pour lutter contre ce fléau. Le fameux Next 40 aussi, hein, normalement Mounir devait l'annoncer dans les prochains jours, on n'en parle plus du tout, c'est une liste de belles pépites françaises qu'on devait pousser, mettre en avant. Bon, c'est un petit peu bon, la femme numérique aussi, la parité dans cette industrie qui est quand même aujourd'hui dominée à plus de 85%
par des
hommes. Voilà, ça fait des tas de choses. Peut-être un petit peu réformer ce mouvement French Tech qui quand même commence à vieillir un petit peu. Quoi. Voilà,
qui avait été lancé
à l'époque
par
petit pins, Fleur
rouge, Pèlerin.
Ça va bien. Ouais. Il est temps que je pense qu'on passe à autre chose.
Voilà. Un gros pins. un gros pit.
Merci infiniment, on en reste là pour ce soir. Emmanuel Paquet de l'Express, Gilles Fontaine de Challenge. La semaine prochaine dans Soft Power, nous consacrerons cette émission, notre émission au financement participatif, c'est-à-dire au crowdfunding, ces entreprises ou ces associations qui aident à financer des projets grâce à un grand nombre, un très large nombre de personnes. Dans un instant, Carbone 14, magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. Et j'ai encore le temps de vous signaler que Jean-Michel Blanquer sera demain l'invité des matins de France Culture. Ne pas rater donc demain matin. Et ça, c'est une vraie information, non pas comme la semaine dernière où l'annonce de Mark Zuckerberg dans les matins du 1er avril était bien sûr un poisson d'avril. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.